des hommes, des femmes vous parlent sur Canal Académie.
Parcours. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Parcours avec ses découvertes, ses expériences, ses échecs et ses richesses.
On retrouve Damien Leguet.
Nous recevons aujourd'hui Renaud Metz pour une grosse et conséquente biographie qui s'appelle Alexis Léger, dit Saint John Perse, et qui est, disons, la première biographie critique, à tous les sens du terme, sur ce personnage-là. Alors Renaud Metz, vous êtes jeune, vous avez 34 ans, vous êtes agrégé d'histoire. Vous avez travaillé pendant des années sur une thèse sur Saint John Perse et qui a fait l'objet maintenant d'une publication auprès des éditions Flammarion, donc. Et vous êtes actuellement maître de conférence en histoire à Tahiti. Première question avant de rentrer un peu dans cette biographie, dans cet énorme travail, il faut le préciser, extrêmement documenté, extrêmement précis, avec beaucoup de sources, d'éléments d'information, d'enquête, enfin quelque chose qui relève effectivement de la juste critique littéraire et de la juste critique des sources telle qu'elle doit être pratiquée, surtout dans les éléments de biographie. Première question qui sera peut-être notre point d'entrée. Quelle idée avez-vous ou quelle lecture faites-vous de l'œuvre? Et on va commencer par l'œuvre poétique de Saint John Perse. Quelle idée vous faites-vous ou quelle appréciation avez-vous de l'œuvre poétique de Saint John Perse qui fait l'objet de notre débat d'aujourd'hui?
Il est parfaitement naturel de commencer par l'œuvre puisque c'est, même si je suis historien, c'est par l'œuvre que je me suis intéressé évidemment à Saint John Perse. C'est parce que j'ai aimé le poète d'éloge surtout, celui d'Anabase, un petit peu moins, et même nettement moins avec le temps, celui des grands poèmes américains qui sont parfois lourds, un petit peu empâtés on va dire, voire lymphatiques. Mais j'aime de nouveau aussi beaucoup la poésie peut-être plus personnelle, au lyrisme plus direct de la fin de la vie de Saint John Perse, Sécheresse notamment. Donc c'est évidemment par l'œuvre poétique de Saint John Perse que je me suis intéressé dans un deuxième temps, comme historien, à son parcours biographique et surtout à ce lien qui est à la fois très français, très original et très intéressant, je trouve, de l'écrivain et du diplomate. J'ai évidemment une admiration fervente pour le poète d'éloge notamment. Je trouve que par les hasards biographiques, j'ai vécu quelques années en Guadeloupe et j'ai retrouvé dans cette peinture d'une enfant guadeloupéenne des expériences personnelles.
Alors il y a donc cette œuvre poétique, et disons que pour faire un tout petit peu d'histoire de Saint John Perse, Saint John Perse donc, qui est né en 1887, est mort en 1975, a reçu donc le prix Nobel, on reviendra sur tous ces éléments-là, et surtout ou aussi pour le public français, au moment de sa mort, un certain nombre d'éloges ont été prononcés à ce moment-là, par le président de la République en particulier, mais par d'autres aussi, qui laissaient effectivement à supposer, d'une part, qu'il y avait d'un côté le poète, et accessoirement, très marginalement, à côté, un diplomate qui s'appelle Alexis Léger, et que donc les choses étaient très dissociées, que le poète avait toujours séparé pleinement les choses. Donc il y a une forme de, disons, légende, et je dis légende à bon escient parce que justement, votre entreprise tente à fendre un tout petit peu cette légende, à la remettre en question. Et puis surtout, il y a en 1972, première édition, cette édition des œuvres complètes de Saint John Perse en Pléiade, avec non seulement la partie poétique, mais aussi la correspondance, mais aussi une partie d'œuvres de lettres diplomatiques. Bref, donc depuis 72, depuis 75, tout le monde vit un peu sur l'idée, effectivement, de cette légende du poète figé un peu dans le marbre et dans la postérité, contemplant la nature et qui, très accessoirement, était diplomate. Donc cette période-là, d'une certaine façon, pour le dire un peu brutalement, même s'il y avait eu des signes un peu avant-coureurs, s'arrête un peu avec votre biographie. C'est-à-dire qu'effectivement, sur cette biographie, on va reprendre point par point, si vous le voulez bien, les différents éléments. Cette biographie tente à rompre le charme de cette légende et de cette légende auto-entretenue d'une certaine façon par le poète lui-même et dont son point d'aboutissement, si on veut, de cette légende auto-constituée, c'est effectivement ce tome de la Pléiade et on pourra revenir effectivement sur les effets de construction de cette Pléiade. Alors je voudrais d'abord que vous me parliez un peu de... On va essayer de faire des choses un peu biographiques, nous avons le temps. Parlez-moi un peu à la fois de l'enfance qui est extrêmement importante dans l'œuvre poétique de Saint John Perse, de l'enfance donc d'Alexis Léger, d'une part, de son arrivée à Paris, à Bordeaux, de ses premières rencontres littéraires, et toujours en la comparant, parce que c'est ça votre biais, toujours en la comparant avec la légende ou du moins ce qu'il en a raconté lui-même et qui a fini par devenir vérité officielle de Saint John Perse. Alors cette première partie, donc 1887, jusqu'à son arrivée à Bordeaux, ses premières amitiés avec différents écrivains.
Oui, alors effectivement, ce que j'ai voulu faire, c'est réunifier ce qui avait été séparé, comme vous l'avez dit, et à cet égard, je crois qu'il ne s'agit pas de rompre le charme, à vrai dire, la vérité aussi a son charme, et les raisons qui ont poussé Alexis à essayer de dissocier ces deux personnalités sont des raisons intéressantes à décoder.
Oui, parce que je fais une petite parenthèse,
oui.
Dans toute votre biographie, vous l'appelez effectivement Alexis, sans doute pour ne pas savoir exactement comment l'appeler, c'est-à-dire quel était véritablement son nom.
Oui,
considérant qu'il est un peu... Alors, je fais une petite parenthèse parce que c'est... On se dit, tiens...
A-t-il
une familiarité particulière avec lui? Il est trop jeune pour l'avoir connu. Je fais une petite parenthèse, mais vous pouvez peut-être revenir sur ce point-là, donc sur quel est son nom.
Oui, voilà, il y a une espèce d'ambiguïté onomastique qui montre très bien comment Alexis, donc, a voulu tout contrôler jusqu'à ce qu'on reçoit, a priori, de ses parents. Hein. C'est évidemment quelque chose d'assez étonnant que... Ce marqueur identitaire le plus intime qu'est le nom soit reçu, c'est quelque chose contre laquelle Alexis s'est rebellé, puisqu'il a passé sa vie à se réinventer des surnoms pour ses intimes, des pseudonymes, Saint Léger Léger, puis Saint John Perse comme poète. Et dans la Pléiade, il a également réinventé finalement le nom de ses aïeux, avec une tendance toute naturelle, fréquente chez les écrivains qui sont une forme d'aristocratie spirituelle, tendance évidemment à ennoblir dans tous les sens du terme ses aïeux. Pourquoi est-ce qu'il a séparé notre cher Alexis, donc si on l'appelle ainsi,
et vous l'appelez ainsi,
ces deux versants? Donc
continuez.
D'ailleurs, même son nom propre, son nom d'état civil porte à confusion, puisque... Les Léger eux-mêmes, et là c'est pas le propre d'Alexis, mais dans sa famille, ses parents prononçaient Léger sans accentuer. Il y avait une forme de coquetterie, et de fait, moi je prends un parti qui est tout à fait discutable. J'accentue Léger dans ma biographie, j'écris Alexis Léger, parce que la plupart des institutions par lesquelles il est passé, l'école, le service militaire, la diplomatie, etc., ont toujours accentué son nom, mais c'est une vérité toute brute et incontestable. Sur l'état civil, Léger s'écrit sans accent, et donc pourrait se prononcer Léger.
Alors, né en Guadeloupe, pour revenir sur sa biographie, oui. Né en Guadeloupe, donc quelle est l'importance de cette naissance qui, en termes d'œuvre poétique, est absolument
Oui, elle est très importante
essentielle.
À tout point de vue. Effectivement, ce sera le motif initial de son premier recueil de poésie, regroupé sous le titre d'éloge. Donc c'est d'abord un motif, mais c'est surtout un milieu et une mémoire, une tradition historique qui vont marquer Alexis Léger. On reviendra tout à l'heure sur la naissance de la vocation poétique, mais le hiatus qui va amener Alexis à séparer sa personnalité secrète, confidentielle, ultra maîtrisée de poète et sa personnalité d'homme, de grand commis de l'État public, va sans doute trouver certaines racines en Guadeloupe. Pourquoi ? L'histoire de la Guadeloupe, finalement, est assez paradoxale. Pendant longtemps, et dans la mémoire familiale, même s'il s'agit parfois de réinvention, dans la mémoire familiale, les Léger et du côté maternel, les Dormois et les autres branches maternelles, s'assimilent à la petite élite aristocratique de grands planteurs de l'île. Or, dans ce milieu-là, pendant plusieurs siècles, d'une certaine façon, on s'est défini contre l'État. On représentait l'ensemble des pouvoirs économiques, politiques, sociaux, culturels de l'île, et on luttait pour conserver son particularisme, ses prérogatives, contre les exigences de l'État, qui notamment, sous le régime de l'exclusif, obligeait les planteurs à vendre seulement à la France, à des tarifs contrôlés, et à n'acheter qu'à la France les biens dont ils avaient besoin. Et puis il y a une évolution, évidemment, à mesure que l'abolition de l'esclavage puis le suffrage universel ont dilué l'importance, sinon économique, en tout cas politique, des créoles, eh bien l'État français n'est plus devenu cet adversaire qu'il était, mais plutôt une forme de refuge. Et là où, pour un créole du XVIIIe siècle, on était fier de se définir contre l'État, il y a sans doute eu, pour un créole qui se sentait déclassé dans une Guadeloupe où le suffrage universel avait ramené les Blancs à ce qu'ils étaient numériquement, une volonté de revanche, une volonté de puissance, si vous voulez, qui est ancrée très, très, volonté de puissance sans connotation négative, vous voyez, mais une volonté d'agir dans le siècle et d'être maître de son destin. Une volonté de faire la politique qui, à mon avis, procède largement d'une déception historique de la part des créoles.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a deux choses, deux ou trois choses. La première, c'est cette invention même, c'est ce que vous dites, de cette naissance dans un îlet de Saint-Léger-les-Feuilles, qui apparemment n'est pas né dans cette
îlet-là.
Il est né
à Pointe-à-Pitre, oui.
Mais il me semble qu'effectivement, il y a un élément presque d'indication. Enfin, je veux dire, on peut lire toute votre biographie en disant finalement, il y a une conscience insulaire.
Bien sûr.
De lui-même. Voilà. Non seulement il est né à la Guadeloupe, mais il est né
Absolument.
Sur une île.
Donc
cette
île
conscience.
Gidogne,
voilà. Cette conscience insulaire, comme vous dites, aristocratique, enfin d'une aristocratie spirituelle et éthique, etc., est très prégnante. Et le fait qu'il ait indiqué lui-même, à tort, être né sur un petit îlet.
C'est un signe, évidemment.
Voilà. Et peut-être un élément peut-être, qui ouvre la biographie, donc l'élément de biographie réécrit par Saint John Perse dans la Pléiade, mais qui est un trait. De
distinction, absolument.
La deuxième chose, c'est que vous dites effectivement que c'est un déclassé. Et donc, il a une conscience d'être un déclassé.
Alors, c'est complexe. En Guadeloupe, ils ne sont pas tellement déclassés. En fait, la gloire des Légers est assez récente. Ils sont arrivés à la Restauration, les Légers, sans doute parce qu'ils avaient des intérêts dans le parti bonapartiste. Donc, les Légers ne sont certainement pas des vieux planteurs arrivés dans les temps héroïques. En revanche, du côté maternel, l'ancienneté de l'implantation dans les Antilles est avérée. Donc, ils ne sont pas vraiment des déclassés. En Guadeloupe, au contraire, ils tiennent le haut du pavé. Du côté paternel, ce sont des hommes de loi qui sont intégrés à la meilleure bourgeoisie pointoise. Du côté maternel, on est dans ces petites familles, on se reçoit entre soi, de Becquet, notamment de Basse-Terre. Non, il est déclassé et il a une conscience de son déclassement et il relie son origine guadeloupéenne à cette lumière à partir du moment où il arrive en métropole. Il arrive d'abord à Pau, qui est à l'époque une ville de villégiature pour l'aristocratie anglaise, russe et ainsi de suite. Et c'est là qu'il prend la mesure finalement de son déclassement social, financièrement également. Les Légers ne vivent pas une période
très faste.
Donc c'est à partir de là, la prise de conscience de ce qu'est un Léger en métropole, que le sentiment de déclassement social va nourrir cette ambition de volonté de puissance.
Donc là, il y aura deux voies qu'il va prendre en même temps. D'une part, ses premières amitiés littéraires, avec Francis Jammes en particulier, Claudel, Rivière, qui sont tout ce petit milieu, disons, qu'il rencontre en particulier à Bordeaux. Et puis après, il y aura effectivement ce service de l'État, qui, comme vous dites, effectivement, est un peu contraire à la tradition familiale, donc cette trahison familiale, d'une certaine façon. La question qu'on se pose, c'est est-ce que ce choix de ces deux carrières se fait par ambition, c'est-à-dire il est fonctionnaire au Quai d'Orsay, et en même temps, il sent bien qu'il y a quelque chose qui, d'une manière ou d'une autre, peut l'aider dans sa carrière si il joue aussi auprès de ses amis écrivains. On sait par exemple que Berthelot a joué un rôle très important pour protéger des diplomates écrivains.
Claudel, le premier chef, voilà. Redoux, Morand également.
Donc comment est-ce que vous voyez cette naissance gémellaire de deux vocations qui seront considérées par lui comme très séparées, mais qui en réalité, est-ce qu'ils s'appuient l'une sur l'autre ou est-ce qu'ils jouent de l'une sur l'autre? Enfin, comment vous voyez ça dès le début?
C'est le cœur du problème et c'est ce qui est le plus intéressant chez lui. Je pense que ça tient à une configuration historique un peu complexe. Pour faire très bref, si on considère les choses un tout petit peu sur le temps long, on est à la belle époque, au moment où Alexis se découvre poète à travers le miroir que lui proposent effectivement Francis Jammes et Claudel notamment. On peut dire que le poète revendique plus que jamais son autonomie, une autonomie qu'il a conquise contre les pouvoirs publics, contre l'État, si on pense au statut de l'écrivain à l'époque du Grand Siècle, et puis contre le goût bourgeois, contre le marché finalement. Les sociologues de la littérature, si vous voulez, dans la lignée de Bourdieu, ont décidé, mais idéologiquement c'est très vrai, qu'en gros, à partir du Parnasse, il y avait l'art pour l'art, la volonté pour l'écrivain d'écrire d'une façon absolument gratuite, sans chercher un succès d'État, du public, etc. Mais ce que n'expliquent peut-être pas ces sociologues, c'est que c'est pas, on ne peut pas expliquer ça d'une façon seulement idéologique. Il y a quelque chose en échange. Pourquoi est-ce que les écrivains acceptent de ne pas gagner d'argent, de ne pas recevoir d'honneurs, d'avoir des places auprès des puissants, etc., en écrivant? C'est sans doute qu'il y a, dans une époque qui simultanément se sécularise, une forme de magistère spirituel, de récompense de l'ordre du sacré. Le poète devient, dans la France de la Belle Époque, ce que pouvait être peut-être le moine dans les temps médiévaux, ou enfin, vous voyez, une figure qui incarne un savoir de l'ordre du sacré. Et donc Alexis rentre en poésie d'une certaine façon comme un moine en religion. Et à cet égard, effectivement, il est, et comme souvent les gens qui viennent de la périphérie, qui arrivent, qui découvrent le centre, c'est un observant très rigoureux de ces rituels littéraires. Et il ne cherche certainement pas un succès de masse, il ne veut pas être un romancier à succès, il veut être ce qui est le plus respectable pour un écrivain de la Belle Époque, être un poète confidentiel qui écrit pour ses pairs, en gros une poignée d'esprit éclairé. Donc on a ça d'un côté. Puis on a de l'autre côté cette volonté de revanche sociale et politique d'un créole. Et puis aussi, vous savez, dans cette France de la Belle Époque, tout un courant qu'on pourrait appeler vitaliste, qui est la vogue nietzschéenne, de la pensée nietzschéenne, mais aussi, vous savez, l'évolution créatrice de Bergson. Bref, un éloge de la vie, une forme de critique de la vie intellectuelle, cérébrale, de la philosophie trop grammairienne, logique, et un éloge de la vie. Il y a donc... Il baigne dans tous ces milieux-là simultanément. Il n'est pas fait d'une seule pièce, le brave Alexis. Donc d'un côté, il veut entrer en littérature comme un moine, et de l'autre, il est comme ces jeunes gens qui sont interrogés par Agathon, vous savez, ces deux journalistes qui interrogent la jeunesse française. Il est épris d'aventure, il lit les romans de Barrès, il veut être un homme d'action. Et il se trouve que son modèle en littérature, c'est Claudel. Donc il va suivre le modèle de Claudel jusqu'au bout. Être un écrivain désintéressé, qui a donc une carrière pour gagner de l'argent et ne pas avoir des succès commerciaux en littérature, mais précisément, et c'est plus que fortuit, la carrière qu'il va choisir est la carrière par excellence, c'est-à-dire ce qu'on appelle la carrière, la diplomatie. Et la diplomatie remet dans une certaine mesure le jeune diplomate dans la dépendance de l'État. Donc l'indépendance qu'il a été chercher à titre économique dans le service de l'État, il la perd d'une certaine façon. Et pour ne pas avoir à assumer les inconvénients de cette perte d'indépendance, eh bien il dissocie totalement, ce que ne font pas d'autres écrivains diplomates comme Giraudoux, Claudel ou Morand, qui sont plus ou moins ses contemporains, il dissocie absolument ces deux personnalités dès ces années. Là. C'est donc à cette époque qu'il choisit son pseudonyme de Saint-Jean-Perse en 1911 avec Valérie Larbeau, même s'il ne l'utilise qu'à la publication d'Anna Baz en 23-24. Et c'est dès cette époque qu'il choisit de séparer ce qui est réuni chez Claudel, chez Morand et chez Giraudoux, avec l'idée qu'il fera une carrière peut-être une carrière politique où on ne pourra pas lui reprocher d'être un dilettante. Ça, c'est sûr. Pour pas que le poète gêne le diplomate. Mais pourtant, le diplomate profite à bien des égards de sa plume. Comme vous le disiez, il entre dans la carrière avec la bénédiction, la protection de Berthelot, qu'il doit à l'amitié de Jammes et de Claudel. Et cette protection va lui être très, très utile, notamment pour réussir au concours de 14. Il y a de forts soupçons que Berthelot ait donné un petit coup de pouce à Alexis Néger en 1914 pour réussir à rentrer dans la carrière.
Renaud Metz, nous allons observer une petite page et nous reprenons juste après.
À la redécouverte du théâtre musical, écoutez Christophe Mirambeau narrer les débuts de la comédie musicale avec Sacha Guitry, expliquer les talents de librettiste d'Albert Villemetz, revenir sur les inspirations de Charles Trenet en 1936, ou encore présenter l'opéra comique Véronique d'André Messager aux côtés du chef d'orchestre Jean-Christophe Spinozzi. À Broadway ou au Châtelet, rien n'échappe à Christophe Mirambeau, qui exhume des partitions fameuses et oubliées et vous fait entendre des extraits musicaux inédits. Ces émissions sont en libre écoute et libre téléchargement sur canalacademy.com.
Renaud Metz, donc, nous vous recevons pour cette biographie qui a son poids à la fois de pages et de révélations. Elle s'appelle Alexis Léger, dit Saint-Jean-Perse, aux éditions Flammarion, et qui frise les 800 pages. Donc, il n'est que l'aboutissement d'un travail très long que vous avez fait sur ce personnage. Nous avons vu, donc, dans une première partie un peu cette naissance, son arrivée en métropole, à Pau, puis à Bordeaux, et le sentiment qu'il a, effectivement, d'être un déclassé. Vous nous avez indiqué effectivement ces deux vocations, qui sont des vocations à la fois poétiques et en même temps au service de l'État, et il devient diplomate. Et on a bien compris, c'est ce que vous disiez juste avant, que ces deux ambitions, de certaine façon, sont pas aussi séparées que ce que l'on pourrait croire, et que d'une certaine façon, par admiration pour Claudel, d'une part, et d'autre part, parce qu'il savait bien que les choses se passaient peut-être de cette manière-là, et avec cette figure tutélaire dont nous avons parlé, de Berthelot, qui aimait bien les diplomates écrivains, il y a eu, même avec deux noms différents, ces deux vocations, et donc ces deux carrières, enfin, ou ces deux vies parallèles. Donc, rappelons qu'en 1911, donc, publication d'Éloge, en 1924, publication de la base, et donc, il réussit le concours du Quai d'Orsay et devient en particulier diplomate à Pékin en 1916, enfin de 1916 jusqu'à 1921. Et alors là, son heure de gloire diplomatique donc va de 1925, et je voudrais qu'on parle un peu de cela, parce que vous en parlez abondamment dans le livre, de 1925 jusqu'à 1940. En 1925, il est directeur de cabinet d'Aristide Briand. Et puis après, pendant 7 ans, il sera, on peut dire, peut-être comme ça, le personnage diplomatique le plus important de la diplomatie française, parce que le seul qui dure dans une époque d'instabilité ministérielle où les ministres changent. Donc pendant 7 ans, il sera secrétaire général du Quai d'Orsay et donc fera, entre guillemets, un peu la politique diplomatique de la France. Donc quel jugement est-ce que vous avez, ou quel jugement est-ce que la postérité a sur ce rôle, pour se contenter donc de ces 7 années très importantes, la montée des périls, la guerre d'Espagne, les accords et les relations difficiles de plus en plus difficiles avec l'Allemagne. Quel jugement peut-on porter sur l'action diplomatique d'Alexis Léger, donc le diplomate ?
Je me garderai d'avoir un jugement, mais ce que je peux faire, c'est essayer d'établir quelques faits qui sont souvent contradictoires avec l'image qu'Alexis Léger, Saint-Jean-Perse, dans la Pléiade, a voulu laisser de lui-même. Ce qui est intéressant, c'est que ces jugements, ou plutôt la légende qu'Alexis a écrite, a évolué avec le temps, ce qui est bien le signe qu'il tenait compte des horizons d'attente, d'une certaine façon, de son époque. À mesure, par exemple, que la conférence de Munich a été associée de plus en plus au symbole de toutes les lâchetés et est devenue un événement honteux par excellence dans la mémoire occidentale, Alexis est devenu de plus en plus clairement anti-munichois. À cet égard, c'est une contre-vérité historique toute simple. Il a, je ne porte pas de jugement, d'ailleurs je crois qu'il y a une exagération considérable, à faire de la conférence de Munich le symbole de tous les abandons. Les choses sont beaucoup plus complexes que ça et surtout s'insèrent dans une chaîne d'abandons. Et bon, c'est un moment qu'il est facile d'isoler Munich. Mais il est certain qu'aux affaires, même s'il est dissimulé, Alexis a toujours milité pour l'apaisement jusqu'à très tard. Et il est le responsable français qui est peut-être le plus fervent partisan d'une conférence qui permette d'éviter la guerre en 1938, lorsque les revendications de Hitler sont de plus en plus pressantes sur les minorités allemandes des Sudètes en Tchécoslovaquie. À cette époque, la direction de la politique étrangère française est un peu partagée entre le président du Conseil, Daladier, qui fait figure de patriote ardent et défenseur des intérêts des Français, y compris des alliances orientales de la France. Et de l'autre côté, le ministre des Affaires étrangères en titre, Georges Bonnet, pacifiste convaincu, qui pense que la France n'a pas les moyens de conserver son rayonnement en Europe orientale et qu'elle est obligée de céder au dynamisme allemand. Dans la mémoire que Alexis a su organiser de sa propre action diplomatique, non seulement Alexis penche du côté de Daladier, mais il aurait été celui qui lui aurait permis de résister face à la volonté émolliente de pactiser de Georges Bonnet. En réalité, il tenait effectivement un discours de ce type à Daladier parce que Alexis Léger était extrêmement souple, extrêmement intelligent et qui voulait avoir toutes les cartes à sa disposition. Donc lorsqu'il avait besoin d'un geste de fermeté à envoyer aux chancelleries étrangères, il était toujours content d'avoir Daladier à activer. Mais par ailleurs, il était convaincu de la nécessité de cette conférence et il va être à cet égard beaucoup plus proche de Bonnet et il va notamment faire pression sur les Anglais, enfin solliciter plus exactement la pression des Anglais du Foreign Office, de telle sorte que les Anglais emportent les résistances de Daladier pour qu'il aille à Munich négocier avec les Allemands la cession des Sudètes. Voilà, c'est un exemple.
Autre exemple qu'on a du mal un peu à bien mesurer. À partir de quel moment, selon vous, la conscience du danger allemand, donc du danger nazi à partir de 33, est devenue fort et important dans la diplomatie ou du moins l'état d'esprit du secrétaire général du Quai d'Orsay?
Vous l'avez rappelé tout à l'heure, Alexis Léger avait été le directeur des cabinets de Briand. Et à cet égard, il avait été l'artisan du rapprochement franco-allemand qui avait marqué, à partir des accords de Locarno en octobre 25, une nouvelle ère diplomatique. En fait, les choses, on a souvent une mémoire un peu trop binaire. Les années 20 sont assez complexes. La France a d'un côté la position que lui assure le traité de Versailles avec ses alliés, ses clients qui sont nés de cette nouvelle Europe, les différents traités de paix, pas seulement celui de Versailles, notamment les nouveaux États que sont la Yougoslavie, la Tchécoslovaquie, la Pologne, qui sont des alliés naturels pour la France. Il y a toute la diplomatie de sécurité collective qui s'organise autour du pôle de Genève, dont Briand va faire le moyen vertueux pour défendre, si vous voulez, l'endroit où la France peut défendre d'une façon vertueuse et collégiale ses intérêts issus des traités de paix. Et puis, il y a cette voie qui n'est pas tout à fait bilatérale, qui est peut-être un retour au vieux concert des nations du XIXe siècle, qui est le traité de Locarno, puisqu'il ne concerne pas seulement la France et l'Allemagne, mais également deux grandes puissances qui sont les garantes des frontières désormais entre l'Allemagne et la France et la Belgique, à savoir la Grande-Bretagne et l'Italie. Donc on a ces systèmes diplomatiques qui fonctionnent concurremment, mais de toute évidence, Alexis Léger, même s'il souhaite conserver pour la France les bénéfices des traités de paix, est très en avant dans l'organisation du rapprochement franco-allemand. Et il va notamment être celui qui va, à Locarno, il a encore un rôle assez modeste, mais qui, un des rares, est dans la confidence de la diplomatie un peu souterraine que mène Briand pour se rapprocher de Stresemann contre les réticences de Poincaré et d'autres responsables français. À partir de 1933,
oui.
il est mal à l'aise parce qu'il est celui qui a rapproché la France de Berlin. Il est celui qui veut garantir la sécurité de la France, non pas sur ses forces propres, mais sur une sécurité collective à Genève. Et ça ne veut pas dire qu'il soit naïf. Il n'a aucune sympathie particulière pour l'Allemagne comme nation, et moins encore pour le régime nazi. Il se trompe sans doute sur les objectifs de l'Allemagne nazie. Il se trompe davantage encore sur ses moyens, mais il n'a évidemment aucune sympathie pour l'Allemagne nazie. Simplement, il pense que la sécurité collective est la meilleure façon de régler, de contenir le dynamisme allemand.
Mais à partir de quel moment, à votre avis, est-ce que cette conscience inédite, enfin, d'une Allemagne qui n'est plus allemande d'une certaine façon, mais qui est plus nazie qu'allemande, et donc des véritables desseins du chancelier Hitler, à partir de quel moment est-ce que cette conscience-là, c'est-à-dire en gros l'idée que le concert des nations n'existe plus, que nous ne sommes plus dans la diplomatie, disons, héritée peut-être lointain du Congrès d'Hyènes, voilà, c'est ça exactement,
oui.
Donc que cette diplomatie-là est terminée et que maintenant nous sommes face à un régime idéologique qui a d'autres vues ou d'autres objectifs ou d'autres desseins que simplement gagner dans l'équilibre des pouvoirs. À partir de quand est-ce que...
Je vais vous donner une date précise un peu plus
Alexis
tard.
Léger, voilà. À partir de quand est-ce qu'il a pris conscience pleinement de ce basculement
d'une certaine façon,
diplomatique
jamais. Mais je reviens dans le détail, mais d'une certaine façon, jamais. C'est-à-dire qu'il prend conscience très tôt du bellicisme ou en tout cas de la volonté de révision active des frontières européennes de la part des nazis. Mais il est convaincu pourtant qu'on peut continuer de jouer la carte de la sécurité collective parce que d'une part, la France ne peut pas être envahie. Et ça, c'est la confiance sans doute aveugle des responsables diplomatiques, politiques français en la ligne Maginot. Il est persuadé que l'Allemagne ne pourra pas attaquer la France, d'autant que la France bénéficie de la garantie anglaise sur sa frontière. Donc, il est persuadé de la sécurité de la France, donc on peut jouer une diplomatie collective dès lors que, concrètement, la sécurité de la France n'est pas menacée. Donc il continue à, par exemple, porter un projet européen qui avait été celui de Briand et qui est devenu complètement anachronique. Il continue de jouer la carte de la Société des Nations, bien au-delà des moments où sont des institutions qui peuvent encore avoir un rôle réel chez les Allemands, chez les auprès des nazis. Ce qui est certain, c'est qu'il continue à jouer ce jeu parce qu'il pense aussi que les nazis sont finalement faibles en Allemagne. Il est sans doute mal renseigné à cet égard. Il pense, d'une part, que les nazis ne vont pas durer, et surtout que si par malheur il devait y avoir une guerre, ce seraient les premières victimes de cette guerre. Non seulement parce que la France est forte et que la France empêcherait une guerre d'offensive, enfin une guerre offensive de la part des armées allemandes, mais bon, surtout que l'opinion, et c'est d'ailleurs une conviction qui va se renforcer à Munich, que l'opinion allemande est majoritairement pacifiste et qu'elle ferait tomber d'une certaine façon les nazis s'il devait y avoir la guerre. Aussi longtemps que les nazis ont eu des succès, l'Anschluss, Munich sans faire la guerre, la popularité de Hitler est forte, mais dès lors qu'il faudrait le payer du prix du sang, eh bien, ses conquêtes feraient tomber les nazis. Donc d'une certaine façon, Alexis est tellement à contre-temps qu'il souhaite la guerre, qu'il pense que la guerre va rétablir l'ordre intérieur allemand. Ceci dit, le moment, s'il faut être très précis, où il cesse de préconiser une politique d'apaisement, mais qu'il pousse pour une politique, qu'il pousse clairement une politique, cette fois de limite, c'est mars-avril 1939. C'est-à-dire au moment où Hitler n'a pas respecté sa parole suite à la conférence de Munich, qu'il rentre en Tchécoslovaquie, qu'il annexe quasiment la Bohème et la Moravie, et que les Anglais eux-mêmes évoluent, rompent avec leur politique d'apaisement et d'une certaine façon d'isolement, et mènent une politique de garantie active des alliés de la France, la Pologne notamment.
Alors pour en rester à l'action diplomatique, et puis après nous reviendrons sur le poète. Donc en 1940, contrairement à ce qui a été dit, c'est Paul Reynaud lui-même qui le chasse et qui lui fait quitter ses fonctions. Et donc, il part à ce moment-là à Washington, où il a des amis. Et alors, donc, il y a un épisode là qui est un peu compliqué. Activement, il semble, enfin, il est évident que Saint John Peirce, Alexis Léger, qui est un diplomate reconnu, fait partie de ceux qui ont l'oreille et l'attention de Roosevelt. Et que présent à Washington, il fait tout d'une certaine façon pour, excusez-moi l'expression, savonner la planche du général de Gaulle, qui lui est effectivement un peu tout seul à Londres, et que la mauvaise idée et donc les mauvaises relations qui ont existé entre Roosevelt et le général de Gaulle sont, et c'est une question explicable, par cette action ou ce jugement négatif d'Alexis Léger, diplomate reconnu, auprès donc de ses amis et de Roosevelt, en ce qui concerne le général de Gaulle. Donc, pour le dire autrement, quelle est la part de responsabilité ou comment est-ce qu'on peut apprécier historiquement ce rôle d'Alexis Léger dans les mauvaises relations, et même parfois les très mauvaises relations, qui se sont juste un tout petit peu améliorées à la fin, mais enfin avant que Roosevelt ne meure, entre Roosevelt et le général de Gaulle.
Alexis avait coutume de se défendre de ce reproche que lui faisaient les gaullistes en disant que le principal adversaire de De Gaulle auprès de Roosevelt, c'était De Gaulle lui-même, et qu'il n'avait eu besoin de personne pour ruiner sa propre image. C'est difficile de pondérer les choses et de savoir quel a été le rôle d'Alexis Léger. En revanche, il est certain, il est avéré, les documents le prouvent à l'envi, qu'il a tout fait, effectivement, pour noircir le personnage du général de Gaulle et le représenter sous les habits de tout ce qui avait de plus inquiétant pour les Américains de l'époque, c'est-à-dire un nationaliste français qui s'entendrait avec les Russes plutôt qu'avec les Américains, et qui avait des vues impériales, y compris sur l'Amérique latine, enfin des choses qui étaient parfois des reproches, qui frisaient parfois le délire. Pourquoi est-ce qu'Alexis a eu ce comportement? D'abord, sans doute parce qu'il n'avait pas une très bonne image, il ne s'était pas très bien entendu au moment où il s'était croisé à la toute fin de son secrétariat général. Il avait toutes sortes de préventions. À vrai dire, il n'était pas le seul à les avoir. Il était passé par Londres juste avant d'arriver à Washington. Et la plupart des autres diplomates français, par exemple Roger Cambon, de la fameuse famille de diplomates qui était numéro 2 de l'ambassade de France, partageait les préventions d'Alexis à cet égard. Donc il avait sans doute... Il était, il faut le dire, à cette époque, pas du tout hostile à Pétain, même s'ils n'avaient pas entretenu très bonne relation lorsque Pétain avait été ambassadeur de France à Madrid. Alexis a voulu se ménager toutes les sorties possibles et notamment il a protesté avec véhémence et il a fait des interventions auprès de Pétain lorsqu'on l'a déchu de la nationalité française, tout simplement parce qu'il n'avait pas le droit de sortir en tant que fonctionnaire français du territoire sans en demander l'autorisation. Donc il n'était clairement pas gaulliste si le mot avait un sens à cette époque, mais il avait surtout des ambitions personnelles et je crois que son pari était que, en jouant la carte américaine, il avait très bien pris conscience de la nouvelle géopolitique de l'après-guerre, que les Américains auraient un poids évidemment déterminant dans le règlement de la paix, qu'en étant du côté des Américains, il retrouverait sans doute le poste dont Reynaud l'avait privé en 1940. À cet égard, les Américains vont effectivement penser à lui, notamment pour renforcer la position du général Giraud en Afrique du Nord. Et Alexis va simplement être un peu trop gourmand, c'est-à-dire qu'il va attendre des Américains, mais aussi des Anglais, qu'ils éliminent purement et simplement la solution politique de Gaulle avant de se risquer, parce qu'il est un petit peu, sinon pusillanime, en tout cas prudent, et il ne veut pas se lancer dans le combat tant que de Gaulle n'est pas éliminé du jeu. Mais c'est vrai qu'il a, sinon rencontré, il a rencontré que deux ou trois fois Roosevelt, donc son influence n'a pas été directe. Mais par le biais de Summer Wells et de Cornell Hull, il a évidemment dépeint sous le jour le plus noir de Gaulle et il n'a rien fait pour améliorer l'image que Roosevelt pouvait s'en faire.
Alors ce qui provoquera une détestation, peut-être que le terme est modéré, du général de Gaulle et des gaullistes de manière générale. Le général de Gaulle... considérant que c'était, je le cite, l'homme des grandes apparences, qu'il était diplomate et que ce n'est pas un homme de et qu'il n'avait pas de caractère, enfin que ce n'est pas un homme de caractère, donc qu'il n'était pas, pour le dire dans les termes du général de Gaulle, qu'il n'était pas l'homme de la situation face aux crises et face à la guerre telle que celle-ci effectivement se développait. Donc on a bien compris qu'effectivement, Alexis Léger, donc, qui était quand même un homme des plus respectables et qui a été au cœur de la diplomatie pendant l'entre-deux-guerres, sa parole comptait et ce qu'il était susceptible de pouvoir dire à Roosevelt directement et ou indirectement comptait et avait une grande
portée, oui. Il faut dire que de Gaulle, de son côté, n'a rien fait non plus pour faire venir à tout prix Alexis auprès de lui. Il lui a bien, sous la pression des Anglais, fait une proposition de venir conférer avec lui en Angleterre, mais contrairement à ce que les Anglais espéraient, sans lui proposer un poste très précis, et celui qu'Alexis espérait, et celui pour lequel il était sans doute fait, et que les Anglais le pensaient ainsi, c'était ce que Massigli va finir par assumer comme rôle, c'est-à-dire l'équivalent d'un ministre des Affaires étrangères. Donc de Gaulle, sous la pression des Anglais, lui a fait des offres, des invites, que Léger a décliné parce qu'elle n'était guère précise.
Très bien, mais écoute, nous allons mettre un terme, d'une certaine façon, à la page diplomatique d'Alexis Léger pour en revenir à celui qui est quand même le plus connu des deux, à savoir Saint-Jean de Perse.
Avec l'émission Les allusions historiques, amusez-vous à découvrir les bons mots et les expressions passées dans la langue française. L'historien Jean-Claude Bologne vous livre les détails de l'ère des lampions, de l'œuf de Christophe Colomb et bien d'autres anecdotes. Les allusions historiques, une rubrique de l'émission Un jour dans l'histoire, à télécharger dès maintenant sur Canal Academy.
Donc nous reprenons notre conversation avec Renaud Metz au sujet de cette biographie conséquente, Alexis Léger dit Saint-Jean de Perse, qui vient de paraître aux éditions Flammarion. Donc nous avons vu la naissance, le début, les années 20, cette double vocation gemellaire entre d'une part le diplomate et d'autre part l'écrivain, le poète. Et d'autre part, nous avons longuement développé à la fois son rôle très important à la suite de Briand dans la diplomatie française et puis, disons, la mauvaise opinion qu'il avait du général de Gaulle, un peu aventurier, un peu pro-communiste éventuellement, enfin voilà. Et donc, considérant le prestige du diplomate, a eu une influence, d'une manière ou d'une autre, auprès des Américains et de Roosevelt en particulier. Mais je voudrais qu'on en revienne à l'autre individu, hein, le Saint John Perse, lui-même, qui, parce que votre biographie ne se divise pas en deux, mais enfin, disons qu'il y a une partie effectivement diplomatique, c'est pour ça qu'on en a parlé, mais aussi, et peut-être surtout, ce qui est le plus intéressant pour ceux qui s'intéressent à la littérature, un détail de la vie du poète Saint John Perse. Donc si on fait un tout petit peu un retour en arrière, donc vous expliquez bien dans un nombre de pages que donc, dans les années 20-30, il avait bien compris, ou disons que les choses se passaient de la manière suivante, il était de bon ton d'avoir une activité littéraire parallèle et qu'il y avait à la fois des salons et à la fois des femmes qui avaient un rôle plus ou moins important pour aider à la fois dans la carrière et à la fois... dans l'accession à des positions importantes dans les salons qui comptent. Donc vous faites là aussi un détail de ce jeune homme ambitieux ou de cet homme ambitieux qui accumule les conquêtes féminines, Lilita Abreu, Marie Laurencin, et puis surtout sa rencontre très importante que vous soulignez. Je voudrais que vous m'expliquiez un peu quelles sont les relations de Saint John Perse avec, avec les femmes et surtout avec Marthe de Fels qui sera disons, le fil conducteur féminin constant sur toute la vie. Donc comment s'est-il comporté à l'égard des femmes, et puis après on parlera de son mariage après, mais c'est pour plus tard. Mais comment s'est-il comporté pendant ces périodes-là, donc disons de 20 à 40, avec les femmes, d'une part, et deuxièmement, quelle était l'importance pour lui de ces conquêtes féminines ?
C'était de toute évidence un grand séducteur. Il a eu de très nombreuses conquêtes féminines dans l'entre-deux-guerres. La maîtresse qui lui a servi peut-être davantage sur le plan politique que littéraire a d'abord été Mélanie de Villemorin, la maman de Louise, qui était plus âgée que lui, qui avait un salon où elle était très introduite dans la vie politique de la Troisième République. Et elle était également proche du ménage Berthelot, qui avait joué un rôle certain dans le début de sa carrière diplomatique. Marthe de Fels avait également un salon où venaient les politiques, mais elle avait peut-être surtout une influence dans le monde littéraire. Son mari, André de Fels, était le propriétaire de la Revue de Paris. C'est par exemple dans cette revue que Claudel va relancer la carrière de Saint John Perse après-guerre dans un article que Saint John Perse leur a commandé dans une certaine mesure à propos de son poème « Vent ». Marthe de Fels, bien, si vous voulez, c'est difficile de démêler les ressorts secrets d'une relation intime. Je crois qu'il y avait entre Alexis et Marthe une affection sincère, une gestion respectueuse de la sphère de chacun. C'est-à-dire que Alexis a servi de nègre très clairement pour Marthe de Fels, qui voulait avoir une position de mondaine littéraire, et donc il lui a écrit. On reconnaît parfaitement le style, un ouvrage sur Vauban, un autre sur Poussin. Marthe de Fels, de son côté, avait le grand avantage d'être mariée, donc n'était pas trop envahissante comme maîtresse. Elle avait très bien compris l'économie, la gestion de la vie passionnelle d'Alexis Léger, donc elle lui laissait avoir des maîtresses pourvu qu'elle n'éclipse pas son rôle central. Il était notoire à Paris, hein, dans le tout Paris de l'entre-deux-guerres, que Marthe de Fels était la maîtresse régulière, si j'ose dire, d'Alexis. Donc il y avait une forme de convergence d'intérêts, sans doute une grande affection. La place des sentiments, c'est difficile. Je vous le disais avant l'émission, la correspondance entre ces deux personnes, Alexis et Marthe, existe, mais elle n'est pas consultable. Hein. Les ayants droit, le règlement interdit la consultation jusqu'en 2040. Donc finalement, il y a une part de mystère qu'il est peut-être bon de respecter dans leur relation. Mmh.
Donc on voit bien effectivement que nous sommes toujours dans l'idée qui est effectivement la vôtre, à savoir que des domaines que l'on pouvait considérer, ou du moins que Alexis Léger a toujours considéré comme séparés les uns des autres, et sur lequel il fallait observer la plus grande discrétion, étaient beaucoup plus intimement mélangés et intimement liés et même s'épaulaient les uns les autres, contrairement à la légende qui avait été d'une manière ou d'une autre entretenue par lui.
Oui, le Marc de Fel, c'est un point de fusion par excellence entre le monde diplomatique et le monde littéraire. Mais les convergences, il y avait des concurrences entre les deux carrières, mais d'une certaine façon, la concurrence, c'est aussi une forme de dépendance. Mais il y avait surtout des convergences qui étaient très fortes. La légitimité d'Alexis comme secrétaire général, comme diplomate, procédait largement de son art rédactionnel. Il écrivait comme personne d'autre. On reconnaissait parfaitement ses télégrammes quand il les avait écrits de bout en bout, et ses corrections étaient fameuses. On singeait même jusqu'à son vocabulaire dans les couloirs du Quai d'Orsay quand on voulait être bien vu par le patron. Donc il y a là une forme de, si vous voulez, de convergence évidente entre l'écrivain et le diplomate dont le premier métier consiste à écrire. Alors je crois qu'aujourd'hui, on demande au diplomate d'être concis et de faire des notes aussi sèche que possible, mais à l'époque, l'art du bien écrire faisait partie des attributs de l'excellence diplomatique.
Alors, nous entrons maintenant, si vous le voulez bien, dans, disons, sa traversée du désert américain, désert qui n'est pas aussi désolé que ce que l'on pourrait croire. Donc, il part donc en 1940 aux États-Unis. Nous avons vu effectivement qu'il n'a rien fait d'une manière ou d'une autre pour disons, se mettre dans les bonnes grâces du général de Gaulle. Et donc, quand le général de Gaulle revient, lui reste aux États-Unis. Et finalement, malgré des tentatives auprès de Léon Blum en particulier et ou d'autres, il ne revient pas dans, disons, les bagages de cette 4e République qui ressemble beaucoup à la 3e finissante avec le même personnel, les mêmes pratiques, etc. Bon. Donc, il reste aux États-Unis de 1940 à 1957. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de cette période-là, où là, il est pleinement et seulement poète. Poète, certes entretenu, poète, certes, qui a un poste important auprès de la Bibliothèque du Congrès, où il est appointé là-bas. Mais qu'a-t-il fait pendant toute cette période, donc de 45-46 jusqu'en 1957, donc pendant ces 10 ans, enfin voilà, qu'a-t-il fait aux États-Unis, et comment est-ce qu'on peut apprécier cette période américaine ?
Vous voyez, c'est encore une convergence très nette, à mon avis, entre la diplomatie et la littérature. Il est rentré dans le service diplomatique en 1914, au moment où la France de la Belle Époque est au sommet de sa renaissance depuis la défaite face aux Prussiens. Et d'une certaine façon, le succès de Saint-John Perse, notamment ses traductions en anglais par T.S. Eliot, mais aussi en russe, en espagnol, en italien, procède de la position internationale de la France. Hein. Il y a très nettement, et d'ailleurs à cette époque, tous les diplomates des pays francophiles envoient des écrivains diplomates à Paris. C'est la grande époque de la convergence entre la diplomatie et la littérature et la domination diplomatique de la France dans l'entre-deux-guerres. Et ce n'est pas, à mon avis, parfaitement fortuit que Alexis quitte le service diplomatique en 40 alors qu'il aurait l'âge de servir et qu'il ne revienne pas en 45-46 malgré les offres, vous l'avez dit, notamment de Blum, qui sont des offres prestigieuses. On lui propose différentes ambassades de premier plan, mais il refuse, peut-être parce qu'on ne lui propose pas le secrétariat général et qu'il est trop orgueilleux pour accepter autre chose, mais peut-être aussi parce qu'il ne veut pas servir cette 4e qui ressemble, comme vous le dites, à la 3e République finissante, si ce n'est que la 3e République finissante ne se savait pas par définition finissante avant de finir et était encore celle d'une France qui dominait largement la diplomatie mondiale. La France riquiqui, la France humiliée des années 46-58, eh bien, elle est peut-être plus assez belle pour qu'Alexis ait tellement envie de la servir dans le registre diplomatique. Et donc, effectivement, il se concentre dans la reconstruction de son personnage de poète, qui n'avait pas écrit, contrairement à la légende, hein, il y a toute une légende selon laquelle la Gestapo aurait ravi dans son appartement parisien en 40 des manuscrits, ça c'est une pure légende. Donc, le poète qui avait continué d'avoir une existence mondaine et littéraire aussi, d'une certaine façon, à travers les traductions, reconstruit peu à peu son personnage via son existence américaine, Mais pas seulement, puisqu'il publie dans des revues pendant la guerre, qui sont souvent des revues qui ont une coloration résistante. C'est là encore un point de convergence entre la sphère politique et la sphère littéraire. Si Alexis réinvestit le champ littéraire, c'est aussi parce que d'une certaine façon, sa mauvaise conduite, entre guillemets, aux yeux des gaullistes, est rachetée parce que, en tant que poète, il a publié dans des revues qui s'apparentent à des revues résistantes et qui font de lui, même s'il est le poète de l'inactualité, un poète résistant. Et donc c'est une motivation supplémentaire pour réinvestir le champ littéraire, enfin le champ français par le biais littéraire plutôt que par le biais politique. Et donc effectivement, pendant toute cette période, il va devenir un poète qui va écrire ses poèmes les plus bavards, je dirais, avec une nuance péjorative volontaire de ma part, mais là évidemment dans une affaire de goût, notamment Amer, qui me paraît un poème assez pompier sur l'amour.
1957.
Voilà. Et puis il revient en France. Alors là aussi, c'est une coïncidence assez amusante. Vous l'avez dit, son premier séjour parisien, c'est en 57, mais c'est à partir de 58 qu'il s'établit vraiment durablement dans une résidence française sur la presqu'île de Gien, dans le sud de la France.
Alors je vois juste qu'on reste une demi-seconde sur les États-Unis. Donc sur les États-Unis, donc il n'a plus d'action diplomatique là-bas et il est donc un peu le poète officiel en exil de la
Exactement.
France, de la France qui ne reconnaît pas ses poètes, et donc cultive là-bas un peu sans produire beaucoup, parce qu'on est assez surpris de considérer qu'il n'y a pas non plus beaucoup d'œuvres durant cet exil américain, sans produire beaucoup, mais un peu poussé par la nécessité, parce qu'il est obligé de le faire.
Absolument.
Parce qu'il y a des bourses, et donc...
Voilà, il a eu en contradiction patente, certaine, avec le régime sous lequel il s'était engagé en littérature, à savoir le désintérêt. Là, c'est pire que tout, il est effectivement payé pour écrire. Alors, on n'exige pas de lui un poème à telle date, mais il doit l'ensemble de ses poèmes et de ses manuscrits à la Fondation, qui le rétribue d'une façon tout à fait honorable. Oui, c'est une période assez étrange où Alexis s'américanise. Il est dans un milieu très francophile et cultivé de la, disons, des démocrates de la côte Est. Il vit dans une espèce d'amour lointain, platonique de la France. Finalement, il est revenu à ce qu'il appelle sa rive natale, puisqu'en tant que créole, il a grandi de ce côté-là de l'Atlantique. Et c'est une période où il s'efforce de conquérir le respect du champ littéraire américain. Il y parvient largement. Il est récompensé à bien des égards par des institutions qui, là encore, contredisent le régime sous lequel il s'était défini comme poète, puisqu'il récusait toutes sortes d'honneurs, à commencer par le prix Nobel quand il était jeune homme. Il considérait que c'était une récompense pour les poètes vendus d'une certaine façon, ou en tout cas les poètes qui n'étaient pas des purs poètes. Donc il réinvestit largement le champ littéraire américain, mais il attend son heure et il espère, fort de la reconnaissance littéraire des Américains, réinvestir le champ littéraire français, tout auréolé de cette gloire, ce qu'il fera à partir de la fin des années 50, en œuvrant de toute son énergie pour avoir le prix Nobel.
Alors, ce qui est assez fascinant dans votre biographie, hein, dans les éléments que vous indiquez, c'est qu'on avait le sentiment qu'effectivement, un peu dépité, un peu réfugié sur son Aventin, considérant que seule la grandeur des États-Unis était capable de rejoindre la sienne, il était parti loin et donc délaissé un tout petit peu la France. Et on a, à vous lire, on voit bien qu'il cherche de toutes les manières possibles à renouer des liens ou à nouer des liens avec des poètes français, parfois beaucoup plus jeunes que lui, mais qui peuvent le servir d'une certaine façon dans sa carrière ou dans la reconnaissance par la France de son œuvre poétique. Je pense en particulier à René Char, qui est poète résistant s'il en est, qui n'est pas de son bord particulièrement poétique, ni même poétique.
Poétique,
voilà.
Oui.
Et donc là, il lui fait des appels du pied. Je pense aussi à Roger Caillois, à Bonnefoy, etc., etc. Bref. Et donc, vous montrez bien qu'il y a toujours un peu en sous-main sans parler des prestigieux poète de son temps, enfin comme Claudel, voilà. Donc il y a toujours l'idée que effectivement il faut solliciter de la part des poètes et ou critiques français une reconnaissance qui ne viendrait pas peut-être sans doute naturellement.
Oui, il orchestre la réception de son œuvre de toute évidence. Et contrairement à l'image que laisse le volume de la Pléiade d'un poète reconnu par ses pairs spontanément, il est souvent à l'initiative de ces reconnaissances. Dans le cas de Claudel, c'est même, c'en est presque comique, puisque sa barbe monstrueusement Claudel, qui avait beaucoup d'estime pour Eloge et sans doute encore pour Anabaz, mais qui n'aime pas tellement non plus ses poèmes américains, et qui est vraiment... on lui commande cet article, donc il se sent obligé de le faire. Avec René Char, les choses sont plus subtiles. Alexis, jouant de son image de pur poète dans l'entre-deux-guerres, arrive parfaitement à cerner ce qu'attend de lui René Char. Il y a une forme de circulation, d'estime réciproque qui permet à chacun de se grandir à l'aune de l'autre. Pour autant, il ne perd jamais tout à fait le fil de la vie politique française pendant cette période. Il joue le rôle d'éminence grise à distance pour tous les politiques français qui viennent aux États-Unis. Il est celui qui décode les mystères de la politique étrangère américaine. Il a de l'estime pour un certain nombre de jeunes gens qui ont été formés sous la Troisième République, qui sont devenus les responsables de la Quatrième, comme Pierre Mendès-France. Et sans attendre son heure, parce qu'il a compris qu'elle était révolue, il continue à vouloir jouer un rôle. Et je crois que jusqu'à la fin de sa vie, sa passion politique sera au moins aussi forte, sinon supérieure à son ambition poétique.
Alors le paradoxe, et vous l'avez dit effectivement juste avant, le paradoxe, c'est qu'il revient effectivement en France à la veille du retour de son meilleur ennemi, enfin, ou de son pire ennemi, je ne sais pas, enfin, ou de celui qui ne le porte pas dans son cœur, à savoir le général de Gaulle, et par un petit, alors vous en parlez un tout petit peu, mais par un épisode qui n'est sans doute pas complètement à sa gloire, considérant qu'effectivement, en 1957, il se fait offrir, dit-il, au travers de la Pléiade, par de gentils amis et riches amis américains, donc une villa, les Vigneaux, sur la presqu'île de Gien. Et finalement, on sait maintenant que ce don s'est réduit à celui d'une... Comment peut-on dire, d'une amoureuse éconduite.
Oui, je suis volontairement rapide sur cet épisode, parce qu'il est suffisamment peu glorieux pour ne pas nécessiter des pages et des pages. Effectivement, c'est une dame de lettres, Mina Curtis, qui a une admiration éperdue pour Alexis, qui l'aide matériellement et sans doute moralement dans sa retraite, dans son long exil américain, qui lui offre cette villa, mais pas seulement, qui est toujours disponible quand il a besoin d'elle dans l'ordre matériel.
Oui, alors vous ne vous approfondissez pas, parce qu'effectivement, juste après avoir reçu ce don, ce cadeau, il se marie 6 mois après, ou
mais
un an après.
Pas avec Mina Curtis.
Pas avec Mina Curtis, qui sans doute n'attendait que cela, mais avec Dorothy Russell, qui, elle, est américaine, mais qui, contrairement à ses autres conquêtes, n'est ni riche, ni particulièrement dotée de pouvoir ou d'influence particulière. Donc, il se marie avec elle, et à ce moment-là, s'installe en France. On va s'arrêter là, une demi-seconde, si vous voulez bien, pour observer une petite page, et nous reprenons juste après.
La bibliophilie est à l'honneur sur Canal Académie. En compagnie de notre bibliologue Bertrand Gallimard Flavigny, vous découvrirez des ouvrages et manuscrits rares présentés avec esprit dans l'émission Au fil des pages. Le bibliologue, une rubrique de Canal Académie, à écouter et télécharger sur canalacademie.com.
Donc nous reprenons notre entretien pour cette dernière partie avec Renaud Metz sur Alexis Léger dit Saint John Perse. Nous avons vu donc le début de la double vocation, le diplomate, et puis maintenant donc il revient en France au moment même, un an après, où le général de Gaulle va lui-même revenir au pouvoir et aux affaires, comme il le disait lui-même. Alors il y a deux épisodes importants, et comme le temps nous a un peu compté, on va essayer d'aller un peu plus vite. Il y a deux épisodes très importants pour lui. Le premier, en 1960, il reçoit le prix Nobel de littérature, et vous racontez que quand on lui apprend qu'il a le prix Nobel de littérature, il feint l'étonnement, il dit « comment moi, on a pensé à moi ?» Alors que vous montrez bien qu'il a œuvré en sous-main directement et ou indirectement pour obtenir ce prix Nobel. Donc la question qu'on peut se poser est la suivante, c'est est-ce que ce prix Nobel de littérature a été donné à un poète ou à un diplomate ?
Vous voyez, on est toujours dans cette problématique, ce point de contact entre ces deux sphères qui sont prétendument séparées. Il est certain, en tout cas, que le diplomate a été serviable au poète en cette occasion. par ses contacts, les Hoppenot, le ménage Hoppenot, notamment Henri Hoppenot, qui était le fidèle adjoint d'Alexis Léger au Quai d'Orsay et un grand admirateur de Saint-Jean-de-Perse également, n'a pas ménagé sa peine et lui a notamment permis de faire la connaissance du secrétaire général de l'ONU, au nom assez difficile à prononcer pour nous, de Dag Hammarskjöld, je prononce spécialement mal, donc on l'appellera par son petit nom de Dag, et le secrétaire général de l'ONU qui doit en partie son élection à Henri Hoppenot, qui a servi de médiateur auprès des Américains, et lui-même un grand lecteur, un admirateur certain de Saint-Jean-de-Perse, et va œuvrer en tant que Suédois et en tant que fin connaisseur des milieux littéraires du Nobel, pour lui obtenir, non sans peine, ce prix qui va récompenser donc 5-6 années de travail, effectivement, en coulisses. Alors vous me direz, il n'est pas le seul à l'avoir fait. On active les anciens Nobel français, les Camus ou les Mauriac, on travaille tous les réseaux possibles et imaginables. L'image de poète, peut-être antigoliste, n'est pas forcément non plus pour desservir l'image du poète humaniste et multilatéraliste pour ces messieurs du Nord, comme il appelait les jurys du prix Nobel.
Alors donc ça, c'est quand même le summum de sa carrière poétique et le moment effectivement où son œuvre est pleinement reconnue comme étant une œuvre essentielle du siècle, ce qui est
voilà,
quand même...
Ce qui est en parfaite contradiction avec la façon dont il se représentait dans sa jeunesse l'écrivain, le poète qui devait coller à la vie et être très loin des institutions littéraires, mais il est effectivement, étant privé de son ambition politique, il a tout réinvesti dans cette volonté de reconnaissance littéraire et effectivement, aujourd'hui, c'est sans doute, enfin, quand quelqu'un ne connaît pas Saint-Jean-de-Perse, le premier réflexe, c'est de dire il est prix Nobel de littérature pour situer un petit peu dans la hiérarchie mondiale des lettres son importance. Ce qui est sans doute la pire façon de juger d'un poète, mais la plus commode.
Absolument. Donc ça, c'est le moment, effectivement, et là, vous montrez bien à la fois, disons, la diplomatie littéraire dont il a fait preuve pour obtenir ce prix Nobel. Il y a un deuxième moment, excusez-moi de vous presser un tout petit peu, parce que le temps nous est compté, mais nous avons quand même le temps. Alors, il y a un deuxième moment qui est, me semble-t-il, le plus intéressant de ce point de vue-là, qui est la publication, donc en 1972, nous y avons fait allusion, du volume de la Pléiade qui lui est consacré. Alors pourquoi est-ce que cet élément-là, ce moment-là est absolument essentiel? Et pourquoi est-ce que ce moment-là justifie d'une certaine façon toutes les appréciations que vous faites sur Saint-Jean-de-Perse et sur disons, ce mélange des genres, enfin voilà. Je cite un certain nombre de vos expressions le concernant, hein, cet imposteur de génie, ce travail de faussaire, il se joue de la vérité, il est manipulateur, il sculpte sa légende, il entretient son mythe. Enfin, tous ces éléments-là, me semble-t-il, trouvent leur point d'aboutissement, le summum, dans ce volume de la Pléiade. Alors, expliquez-nous pourquoi est-ce que ce volume de la Pléiade est d'une certaine façon, on ne parle pas des œuvres poétiques, mais de, à la fois, disons, la biographie, d'une part, et d'autre part, la correspondance, pourquoi est-ce que, d'une certaine façon, on peut considérer que cette œuvre complète de Saint-Jean-de-Perse, 1972, est un faux?
Voilà. Alors, Alexis n'a jamais cessé d'être un affabulateur, mais effectivement, la Pléiade, c'est le moment où ce travail d'affabulation s'arrête et revient sur l'ensemble de sa vie. Là encore, à l'origine du projet, il y a une convergence entre la politique et la littérature. Depuis plusieurs années, Alexis, qui connaît Gaston Gallimard depuis les débuts de l'aventure de la NRF, dont il est partie prenante depuis l'origine, réclame donc Alexis à Gaston d'entrer de son vivant dans la Pléiade. Ce serait, après le Nobel, l'autre consécration. Gaston Gallimard y est hostile pour différentes raisons, avant tout commerciales, et il argue du fait que la totalité, la somme des œuvres poétiques d'Alexis ne suffit pas pour constituer un volume qui doit canoniquement représenter au moins 700 pages. Et il sollicite Alexis sur son versant politique. Alexis, depuis des années, pour tenir à distance la menace des gaullistes, agite le projet de publier un journal anti-gaulliste qu'il aurait écrit, rédigé pendant la guerre, qui n'a en fait jamais existé. Gaston Gallimard saute sur ce projet et propose de joindre à la, aux œuvres complètes poétiques ce journal. Comme il n'existe pas, Alexis fait une contre-proposition, publier sa correspondance et quelques documents politiques. À partir de là, il va rentrer dans un travail de très longue haleine pour retrouver des correspondances qui sont authentiques, mais qu'il va retravailler pour apparaître sous le jour le plus favorable.
Alors vous dites pas retravailler, si j'ai bien compris, et ce n'est pas un jugement de valeur, c'est oui. Fait, vous dites réécrit.
Alors, il y a des correspondances qui sont entièrement écrites pour l'occasion. C'est par exemple le cas de la quasi-totalité de sa correspondance asiatique, c'est-à-dire les moments où il est en Chine entre 1916 et 1921. Les lettres à sa mère, où il annonce avec un prophétisme brillant le destin communiste de la Chine, qui ne correspondent absolument pas aux analyses qu'il envoyait dans ses dépêches diplomatiques de l'époque, ont été écrites à ce moment-là pour la publication en 1972 de la Pléiade.
Donc vous voulez dire que dans ce volume de la Pléiade, il y a des correspondances qui datent de 1920-1930 oui. Et qui ont été complètement écrites en 1970.
Absolument. Aucune lettre quasiment n'est passée tout à fait en dehors des ciseaux d'Alexis. Si vous voulez, dans la biographie, les choses apparaissent le plus clairement possible. Tous les passages des lettres qui sont cités en caractères normaux sont des passages authentiques. Et dès que je cite les choses en italique, je fais référence à un original qui est différent de ce qui est cité dans la Pléiade et qu'on peut retrouver dans les papiers personnels du poète. Donc effectivement, la totalité de la correspondance asiatique quasiment est fausse. La lettre à Berthelot également est fausse. Alors qu'on a la vraie, par ailleurs, correspondance avec Berthelot. La correspondance de jeunesse ou la correspondance américaine est retravaillée, c'est-à-dire que parfois, avec des coupes très légères, on arrive à modifier le sens de la lettre. Parfois, d'ailleurs, derrière l'apparence d'une grande honnêteté éditoriale, Alexis met des trois petits points entre crochets pour signaler une coupe, mais il signale évidemment pas quand il y a une réécriture.
Donc vous voulez dire que, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que quand on parle du poète, que le poète puisse réécrire des lettres poétiques, enfin c'est une chose. Mais là on parle de diplomate qui n'est pas encore secrétaire général ou qui va le devenir secrétaire général du Quai d'Orsay. Donc lui s'est permis, enfin d'une certaine façon, de réécrire des lettres, donc de jugement d'un diplomate sur une situation de l'époque qui n'était pas le jugement qu'il avait.
C'est le moins qu'on puisse dire.
Voilà,
oui.
À ce moment-là.
C'est le moins qu'on puisse dire. Oui, il a bénéficié de 50 années d'histoire pour annoncer le contraire de ce qu'il annonçait, ou plutôt il n'annonçait pas grand-chose, parce qu'en fait, les diplomates se gardent bien de faire des prévisions. Mais si vous voulez, les premiers signes d'une évolution de la Chine vers un nationalisme anti-occidental et vers le communisme n'étaient absolument pas vus par lui. Certains de ses collègues étaient un peu plus clairvoyants, et c'est tout à fait l'inverse qui apparaît dans la Pléiade, puisqu'il a au contraire une lettre parfaitement prophétique où il annonce point par point l'évolution de la Chine à venir.
Alors, autre point qui pose problème, enfin, c'est que la biographie, donc, qui est généralement rédigée pour les volumes de la Pléiade
par
un universitaire ou par quelqu'un qui, de manière ou d'une autre, reprend et indique. Bon, cette biographie, donc, dans l'édition d'origine, que j'ai sous les yeux, n'est pas signée. Donc, on imagine que c'est quelqu'un de Gallimard qui s'en occupait. Et personne n'indique non plus dans le dit volume que Saint-Jean de Perse a lui-même, ce qui apparemment est le cas, a lui-même écrit complètement sa biographie et en arrangeant, enfin pour le dire...
En travestissant largement la réalité. Oui, on pourrait ouvrir à quasiment n'importe quelle page cette biographie. Elle est très longue sur les origines de sa famille, donc j'ai un peu longuement peut-être essayé de réécrire la vérité grâce aux travaux généalogiques qui ont été faits sur la question. Mais sur les pages plus intéressantes de la vie politique internationale, son rôle est très largement travesti. Il y a presque tout. Et après, il y a des appréciations qui sont suffisamment elliptique pour ne pas être trop fausse, mais si vous voulez, le jour général de cette biographie est évidemment assez trompeur pour quelqu'un qui n'aurait pas d'autres sources sur la vie réelle de notre écrivain diplomate.
Donc vous voulez dire que d'une certaine façon, après avoir œuvré d'une manière ou d'une autre, soit par ses amis poètes, soit par ses maîtresses successives, soit par ses relations diplomatiques, etc., pour sa plus grande gloire, il met au sommet de la hiérarchie de sa propre statue, enfin de sa propre gloire, ce volume de la Pléiade, qui, contrairement à ce qui n'est jamais indiqué, est donc un ensemble de lettres fausses, enfin fausses, c'est antidatées. Enfin,
écrites par lui, mais,
voilà, par lui,
antidatées, voilà.
Voilà, mais complètement
pas,
antidatées.
Pas apocryphes, mais effectivement antidatées, oui.
Antidatées et par des éléments de biographie qui sont, là aussi, complètement de la légende auto-entretenue sur lui-même, mais sans aucun respect.
Voilà, c'est la légende au sens étymologique du terme. La Pléiade, c'est ce qui doit être lu de la vie d'Alexis Léger. Et d'une certaine façon, c'est une forme de fidélité à la façon dont Alexis Léger s'était engagé dans la vie poétique. Et on y lit non pas la vie qu'il a vécue, mais qu'il aurait dû vivre s'il avait été fidèle aux représentations qui étaient les siennes quand il est rentré dans la carrière littéraire. Et aussi, dans une certaine mesure, c'est une forme d'hommage à ce que aurait dû être sa carrière diplomatique, qui n'a pas été honteuse. Il n'a certainement pas été ultra clairvoyant, mais il n'a jamais non plus la moindre complaisance à l'égard du régime nazi, par exemple, très, très loin s'en faut.
Alors, donc on voit bien, c'est comme ça que vous le décrivez, hein, qu'il y a un effet un peu à la fois de mystification et de manipulation avec un certain nombre de personnes. Alors vous citez une lettre que je trouve absolument pathétique et qui est peut-être même un peu, d'une certaine façon, à l'initiative peut-être de votre travail, une lettre d'Anna Bosquet, poète, qui effectivement, à la lecture et connaissant bien l'œuvre, ayant tout fait selon ses moyens pour propager l'œuvre de Saint John Perse, qui donc à la lecture de la Pléiade et sachant d'une certaine façon ce qui se passe dans les arrière-cuisines, mais ne pouvant pas non plus le dire très, très officiellement, donc vous citez ce texte d'Anna Bosquet, page 719, où il dit « Tout dans la vie littéraire de Saint John Perse a été orchestré par lui sans faille ni humilité naturelle. Sa majesté nous est connue, ainsi que sa façon de dominer son œuvre au même titre que ses inimitiés. Je poursuis, on ne connaîtra jamais de Saint John Perse que la parade, la solennité, la grandeur étudiée, le mythe, la légende, le personnage privé de ses angoisses et de ses simplicités. » Et donc, ce poète parmi d'autres, est un peu, d'une certaine façon...
un peu interloqué.
Un peu
il ne reconnaît, voilà. reconnaît pas le Saint John Perse qu'il connaît dans la Pléiade. Mais d'une certaine façon, tout dans la Pléiade indique qu'elle est fabriquée, qu'elle est factice. Et c'est comme ça que j'étais amené à travailler sur Alexis Léger. C'est qu'en ouvrant ce volume de la Pléiade, on voit des contradictions internes. On voit bien qu'elle est plus un ouvrage d'édification sur ce que aurait dû être sa vie que sur la réalité. Et ce qui est le plus fascinant, d'une certaine façon, c'est que la Pléiade est une invitation à aller la déconstruire. C'est-à-dire que Saint John Perse lui-même a laissé dans la fondation qui porte son nom l'ensemble de sa documentation personnelle, y compris les traces les plus évidentes de ses manipulations. C'est-à-dire qu'on retrouve les lettres telle qu'originale qu'il a retrouvée et les endroits des coupes et les réécritures qu'il a faites.
Alors justement, c'est ma dernière question parce que je trouve que c'est absolument essentiel. Il meurt donc le 20 septembre 1975. Sa légende est à son summum là aussi. Le président de la République lui rend hommage, etc. Bon, bref. Mais comme vous dites, étant un faussaire de génie, hein, pour reprendre votre expression, il laisse les traces de toutes ces manipulations. Donc la question que je me posais était la suivante. Il y a, d'une certaine façon, ceux qui sont encore, peut-être, dans la légende de Saint John Perse. Mais, d'une certaine façon, ayant laissé ces traces, n'a-t-il pas, ou ne montre-t-il pas, un certain mépris à l'égard de ceux qui, finalement, croient la légende et non pas la vérité, d'une part. Et d'autre part, est-ce que vous n'êtes pas, vous, qui déconstruisait un peu le mythe, est-ce que vous n'êtes pas à la hauteur de ce Saint John Perse ou de cet Alexis qui a donné toutes les clés pour qu'on puisse effectivement le démythifier, hein, le rendre à sa juste vérité et bien montrer que finalement, il a manipulé ou il a été un prestidigitateur de génie, un promoteur de l'autofiction, hein, comme vous le dites, et que d'une certaine façon, vous êtes le premier à lui rendre vraiment hommage à la hauteur du travail de faussaire, entre guillemets, qu'il a fait.
Mais j'aime beaucoup votre interprétation, je la trouve très amusante. Et on peut imaginer effectivement Saint John Perse quelque part souriant et me considérant comme son meilleur complice. Peut-être qu'effectivement, Enfin, très certainement, parce qu'il a, on sait par ailleurs qu'il a détruit certains de ses papiers qu'il ne voulait pas léguer à la postérité, notamment les laboratoires, les carnets qui servaient de laboratoire à son œuvre poétique. On en a retrouvé un parce qu'il était tombé derrière une armoire et donc après sa mort, suite à un déménagement, on l'a retrouvé. C'est d'ailleurs assez intéressant, on y trouve des notations tout à fait révélatrices sur sa façon de travailler. Mais on peut imaginer effectivement qu'il n'a pas voulu que disparaissent d'une façon définitive les... Tout le geste créateur ultime qui permet de donner un sens ultime à sa vie. Il a été ce qu'il a été, il a été celui qu'il a voulu laisser croire être au fur et à mesure de sa vie devant ses amis, mais il a surtout été ce manipulateur génial qui épouse finalement parfaitement son époque, puisqu'il n'a pas cessé de redessiner son portrait en fonction des attentes de cette époque.
Donc on peut considérer effectivement, et c'est comme ça que moi je l'ai lu, on peut considérer effectivement que la meilleure façon de rendre hommage à Alexis Léger, c'est de faire la part des choses entre la légende et la vérité. Et lui, ayant laissé tous les éléments, les papiers, les textes, pour faire ce travail, on peut dire effectivement que la vérité, la vraie vérité, comme on dit, d'Alexis Léger, dit Saint John Perse, est magnifiquement rendue par votre travail, très précis, très, très documenté, qui va effectivement à la source et qui accumule les témoignages, les documents. Donc il n'y a pas là non plus de contre-légende. Hein. Il y a véritablement une manière de rendre à ce personnage sa vérité. Et donc, Renaud Metz, je vous remercie d'être venu comme ça jusqu'à nous et de nous avoir permis de restituer à Alexis Léger, dit Saint John Perse, sa vraie vérité et de le faire et de faire en sorte qu'il devienne un promoteur, un initiateur, un précurseur de cette autofiction, cette manière de se raconter soi-même indépendamment de la vraie vie, qu'il a été légende et vérité, qui n'a pas été perçue complètement à l'époque, mais d'une certaine façon, l'ironie dont vous parliez, l'orgueil qui était le sien, a été jusqu'à considérer qu'il fallait qu'un Renaud Metz vienne pour révéler aux yeux de tous l'orgueil suprême qui est celui de montrer jusqu'à quel point il a été orgueilleux. Renaud Metz, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Voilà. Et pour cette lecture, je crois que vous avez parfaitement compris son dessein et effectivement le mot ironique convient parfaitement au grand dessein d'Alexis Léger qui a ainsi organisé sa mémoire.
Merci bien.